Il y prend tous les jours ce métro. Quand on dit qu'il y avait un dieu du Stade en 24, El Wafi, c'est pas rien. Quand on dit qu'il y avait dans Paris des gars qui venaient, des ambassadeurs, des hommes de lettres, que la première presse arabe était déjà là dès le 19e, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'illégitime ici. Ce regard que lui renvoie en permanence aujourd'hui le présent sur son illégitimité presque de sang de ses pères, de ses arrière-grands-parents ici, elle est illégitime parce que tout le monde oublie de regarder cette mémoire pour arriver simplement à légitimer notre présence ici. Et c'est tout, je pense, une des grandes raisons du mal-être de la dernière génération, c'est de manquer de racines. Et c'est valable des deux côtés, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale ou simplement une vision extrêmement misérabiliste et haute de l'histoire de l'immigration, notamment maghrébine ou africaine en France, parce qu'on l'a aussi montré comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport à la militance où il a fallu les présenter comme des victimes. Voilà. Comme si on ne pouvait, qu'on est ex-indigène, qu'être qu'une victime de l'histoire. Pareil arabe, oui, il y a des moments sombres, mais vous vous rendez compte qu'il y a des danseuses du ventre, de la musique, du rail, de la fête, du petit business, de la presse, de l'édition, des artistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut faire extrêmement attention aux contre-images qu'on pense fabriquer, où on pense partir dans le bon sens, mais en fait, on continue à fabriquer des victimes de l'histoire. Et l'histoire du Paris arabe, c'est pas l'histoire des victimes de l'histoire. Ils en ont pris, oui, par moments plein la gueule, soyons très réalistes, employons les mots, mais en même temps, ils ont construit leur place au soleil. Et ils l'ont largement mérité. Il y a peut-être dans cette dernière génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on devait faire un dernier chapitre, c'est-à-dire 2005-2030, on ne traiterait pas de Paris. C'est dans la banlieue que se passe aujourd'hui la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris arabe a peut-être disparu d'une certaine manière. Qu'est-ce qui reste du Paris arabe? C'est peut-être ces gamins qui viennent zoner sur les Halles, sur les Champs-Élysées le week-end parce qu'il n'y a pas d'autre endroit.
Et parce que c'est le croisement de RER.
Exactement. Donc, ils sont un peu hors la ville et que d'une certaine manière, la culture arabe est en train de quitter cette ville qui a été véritablement, pendant plus d'un siècle, un pôle de référence, à la fois aussi un pôle de combat, mais un pôle de créativité culturelle. Et le choc de tout ça, je pense, notamment pour cette jeune génération qui arrive, c'est d'arriver à se trouver une place sans être envoyé en permanence, non pas à ce que l'on fait, mais à qui l'on est. Et donc, indirectement, ils ne connaissent pas leur histoire et pourtant ils en portent le poids en permanence. Qui est, je vous dis, le Paris arabe n'appartient pas plus aux maghrébins de France, aux orientaux qu'aux parisiens. Il appartient à tout le monde. Le Paris arabe, c'est pas un Paris des arabes. C'est un Paris arabe, comme il y a un Paris noir, comme il y a un Paris Asie. Ce sont des entités qui forment un tout en Paris. Et à un moment, il faut bien s'arrêter dessus pour arriver à comprendre ce qui fait la trame d'une histoire, mais en même temps, tout ça est intimement lié. Et ce que je veux dire, c'est que ça forme Paris. Sinon, cette ville, c'est pas ce qu'elle est.
En 2006, un sondage indiquait que 73% des musulmans se déclaraient favorables à la séparation religion-État. et ajoutait